Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Il est une pensée de Pascal qui est très connue, c'est celle-ci. Le moi est haïssable. Que veut dire Pascal ? Il faut éviter les contresens à ce sujet. Pascal n'est pas ici simplement dans l'expérience ordinaire de la vie, il ne veut pas dire que chaque personne humaine est haïssable. Ce qui est haïssable, c'est le moi, en tant que moi. C'est-à-dire, ce qui est haïssable, c'est le fait que chacun d'entre nous tend à se poser comme centre de toute chose. Cela porte un nom, c'est l'égoïsme ou l'égocentrisme. Se poser, moi, comme centre. Que dit Pascal ? Apparemment, ce qui est détestable dans le moi, quel qu'il soit, ou qu'il soit en qui que ce soit, c'est simplement le déplaisir qu'il nous cause. Mais ce que Pascal montre avec beaucoup de finesse, c'est que si le moi est haïssable, ce n'est pas parce qu'il nous cause du déplaisir, c'est au contraire, ou c'est plus profondément, parce qu'il est injuste. En quoi est-il injuste ? En ceci qu'il se fait le centre du tout. Voilà donc l'imposture du moi. C'est que chaque homme, en tant qu'il est un moi et qu'il veut être soi et s'affirmer comme un moi, justement, se fait centre du tout. La conséquence, c'est que chacun d'entre nous est incommode aux autres. Pourquoi ? Parce que si je me pose comme centre de tout, comme centre du tout, eh bien, je voudrais être le centre et les autres n'existeront qu'en périphérie par rapport à moi ou que comme des satellites par rapport à moi, si je garde l'image du soleil et du système solaire. Et par conséquent, je voudrais être le tyran de tous les autres. Voilà donc l'imposture du moi, se poser comme centre et par conséquent se faire le tyran de tous les autres. Autrui n'est là qu'en fonction de moi, que par moi et que pour moi, que pour servir mon bon plaisir. Je me suis fait centre du tout et c'est par là que je suis haïssable. Le fait de pouvoir dire « je », de pouvoir dire « je pense » n'est pas en tant que tel haïssable. Ce qui est haïssable, c'est la position de soi comme centre de toute chose, comme centre du monde. Et vous voyez bien ainsi que cette imposture signifie que le moi qui fait cela, mais nous faisons tous cela à quelques degrés, le moi qui fait cela se place à la place de Dieu, se met à la place de Dieu qui est lui le véritable centre de toute chose et de toute personne. Pascal a beaucoup médité sur l'amour propre. Que dit-il ? La nature de l'amour propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Voilà donc l'amour propre, l'amour de soi comme amour propre, amour de ce qui m'est propre, de mon propre et de ma propriété d'ailleurs aussi, faudrait-il dire. Eh bien, le propre de ce moi, c'est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Autrui éventuellement, dans la mesure où il m'intéresse moi. Or, qu'advient-il ? Eh bien, ce moi qui se fait centre du monde, s'il se regarde un peu attentivement et avec sérieux, sans illusion, que découvre-t-il ? Il découvre qu'il est plein de défauts et de misères. Je cite Pascal. « Il veut être grand et il se voit petit. Cela peut être au propre ou au figuré. Il veut être heureux et il se voit misérable. Il veut être parfait et il se voit plein d'imperfections. Il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. » Voilà donc l'embarras dans lequel se trouve le moi qui s'est posé comme centre de tout et qui revient à soi en s'examinant. Qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre, pour le moins, le contraste entre l'image qu'il a de soi, ce qu'il voudrait être, et ce qu'il est en vérité, même si cela est caché aux yeux d'autrui, parce qu'il est tout à fait habile à le cacher, et si cela est caché à ses propres yeux, parce qu'il est tout autant habile à le cacher à ses propres yeux. Voilà un homme qui se croit grand et qui se découvre petit, qui veut être heureux, qui se voit misérable. Quand il voit toutes ses imperfections, il doute de soi. Cet embarras où il se trouve, dit Pascal, produit en lui la plus injuste et la plus criminelle passion qu'il soit possible de s'imaginer, car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et qui le convainc de ses défauts. Voilà donc quelque chose de neuf, une pensée profonde, c'est l'idée de l'une haine de la vérité. l'homme qui a haine de la vérité. Quand il fait la vérité sur lui-même, ou quand quelqu'un lui permet de venir à la vérité sur lui-même, en découvrant, par exemple, qu'il est menteur, en découvrant qu'il est ceci ou cela, tel ou tel vice, eh bien, au lieu d'être plein de gratitude pour celui qui nous fait voir la vérité sur nous-mêmes en vue d'une correction, d'une amélioration morale, eh bien, nous avons au contraire de la haine pour la vérité et de la haine pour celui qui nous la montre. Donc nous concevons une haine mortelle contre la vérité et contre celui qui nous l'a fait voir. Que dit Pascal ? Il ajoute, il désirerait de l'anéantir, anéantir cette vérité, mais ne pouvant la détruire en elle-même, il la détruit autant qu'il peut, dans sa connaissance et dans celle des autres. C'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts, et aux autres, et à soi-même, et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir, ni qu'on les voie. Nous sommes là face à la comédie sociale ordinaire. Chacun se vante de qualités qu'il n'a pas, donc de qualités empruntées, et chacun s'emploie le plus soigneusement du monde à corriger ses défauts ou à faire croire que ses défauts n'en sont point et que ses défauts sont des qualités. Donc nous sommes ici soigneux, vigilants, à couvrir nos défauts, non seulement aux autres, mais à nous-mêmes, et éventuellement nous allons jusqu'à renverser toute chose en donnant ses défauts pour des vertus, ses vices pour des vertus. Donc nous cherchons à détruire la vérité et nous ne supportons pas celui qui nous fait voir la vérité. Pascal continue, je cite, « C'est sans doute un mal que d'être plein de défauts, mais c'est encore un plus grand mal que d'en être plein et de ne les vouloir pas reconnaître, puisque c'est y ajouté encore le mal d'une illusion volontaire. Nous ne voulons pas que les autres nous trompent, nous ne trouvons pas juste qu'ils veuillent être estimés de nous plus qu'ils ne le méritent. Il n'est donc pas juste aussi que nous les trompions et que nous voulions qu'ils nous estiment plus que nous ne méritons. » Voilà, une pensée extrêmement profonde qui éclaire d'un jour un peu vif et difficile, douloureux, nos rapports sociaux. Nous sommes pleins ici d'une illusion volontaire. Donc nous ne sommes pas victimes, nous sommes au contraire les auteurs de cette illusion que nous entretenons nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que quand nous découvrons nos défauts, nos imperfections, nos infirmités, qui peuvent être physiques, psychologiques, morales, etc., intellectuelles, qu'est-ce que nous faisons ? Au lieu de les reconnaître et de tâcher de nous améliorer pour ce qui est améliorable, nous cachons à notre vue ces défauts et à la vue d'autrui. Et à ce moment-là, nous faisons comme s'il n'y avait aucun défaut ou aucun vice. C'est ce qui permet à Pascal de parler de l'illusion volontaire. Cependant, nous ne voulons pas que les autres nous trompent. Quand nous regardons autrui, nous voyons par là que nous ne jugeons pas autrui avec la mesure qui nous sert pour nous-mêmes. Nous sommes extrêmement exigeants à l'égard d'autrui. Nous voulons qu'il ne nous trompe pas. Nous voulons estimer autrui selon ce qu'il est en vérité. Et nous ne voulons pas l'estimer davantage, moins, ne nous gêne pas du tout, mais en tout cas pas davantage. Or, il y a ici une disproportion, parce que si nous attendons si nous exigeons justement quelque chose par rapport à nous-mêmes, nous n'exigeons pas la même chose par rapport à autrui et vice-versa. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que nous trouvons injuste qu'autrui veuille être estimé en fonction de vertus factices, de vertus illusoires. Mais cela ne nous gêne pas nous-mêmes d'être estimés d'après des vertus illusoires. Et donc c'est par là que nous sommes injustes à l'égard d'autrui. Parce que la vérité, la justice ici, serait de rendre à chacun le sien, donc à autrui comme à soi-même. Et donc la véracité demanderait que nous ne trompions point autrui et que nous cherchions à être estimés en fonction de notre mérite. Mais nous voyons bien ici la difficulté, c'est que si un homme se met à nu moralement en faisant voir ses défauts, ce qui est possible dans le cadre de l'amitié ou de l'amour véritable, évidemment, il pourra craindre de ne plus être estimé et de ne plus être estimable aux yeux d'autrui. Il pourra craindre d'être purement et simplement blâmable du fait du caractère profond de ses vices, de ses défauts, de ses infirmités, etc. Et donc la crainte aussi d'autrui, du regard d'autrui, de même que la crainte du regard de notre propre raison, nous fait nous réfugier dans une illusion sur nous-mêmes. Et nous voyons là donc une illusion qui est bel et bien une illusion volontaire. Cela implique aussi que l'amitié que nous expérimentons est une amitié tout à fait fragile. Pascal, dans un autre fragment important, dit ceci, je cite, « Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas quatre amis dans le monde. Cela paraît, par les querelles que causent les rapports indiscrets, qu'on en fait quelquefois. Ces rapports indiscrets sont le fait que quelqu'un me rapporte ce qu'on dit de moi en mon absence, et cela, bien sûr, peut me mettre en colère. Nous voyons bien comment cela se fait et se joue dans les rapports humains. Si donc nous savions ce qui se dit de nous en notre absence, y aurait-il encore quelque ami, un ami sur la terre? Pascal en doute ici. On rapporte aussi qu'Aristote, sur son lit de mort, a eu cette parole « Mes amis, il n'y a pas d'amis ». Cette parole était adressée aux quelques amis présents autour de lui, mourant. Alors, cela veut dire aussi donc que ce qui est exigé de nous, c'est la véracité. Cette véracité est difficile, douloureuse à l'égard de soi, à l'égard d'autrui. Cette véracité qui fait que nous devons chercher la vérité et dire la vérité, d'abord eu égard à nous-mêmes et ensuite eu égard à ce qui nous paraît d'autrui. Et à ce moment-là, la merveille sera que l'on puisse dire du bien de nous en notre absence. Cela veut dire donc que l'amitié n'est véritable que quand elle est fondée sur la vérité. La plupart des amitiés humaines sont illusoires, sont des impostures. Elles tiennent au fait que nous ne savons pas ce qui se dit de nous en notre absence. Si nous le savions, nous ne tiendrions pas un tel ou un tel pour notre ami. Et en revanche, la véritable amitié est telle parce qu'elle est fondée sur la vérité.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous le voyons, la question de la haine est une grande question chez Pascal. Nous sommes dans l'illusion à l'égard de nous-mêmes et dans l'illusion à l'égard d'autrui, dans la mesure où nous sommes prompts à croire en une sorte d'amitié universelle ou de bienveillance universelle, tandis que l'expérience souvent nous des abus en nous faisant voir justement que nous étions dans l'illusion. Alors, il y a une manière de sortir de cela, qui est la véritable amitié dont je viens un peu te parler, à savoir que cette amitié, pour être véritable, doit être fondée sur la vérité. Mais Pascal a écrit un certain nombre de fragments tout à fait décisifs sur cette haine. Et il faut donc approfondir la question. Je lis un fragment très important sur ce point. Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. On s'est servi comme on a pu de la concupiscence pour la faire servir au bien public. Mais ce n'est que feindre et une fausse image de la charité, car au fond ce n'est que haine. Que dit Pascal ? Cela peut paraître un peu effrayant quand nous l'entendons nous dire « Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre ». Ce « naturellement » est à référer à la nature d'après la chute d'Adam. Donc ce n'est pas la nature première, ce n'est pas non plus la nature finale. C'est la situation présente de l'homme. Et cette situation présente nous fait découvrir une haine réciproque. Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. Ce qui veut dire que si nous avons le bonheur d'éprouver, d'expérimenter dans la vérité de l'amitié et l'amour, c'est précisément pour Pascal quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui ne vient pas seulement de nous, mais quelque chose qui vient de Dieu et qui est de l'ordre de la grâce. Quelle est donc la situation présente de l'homme ? Eh bien, c'est la haine mutuelle. ce qui se voit à la jalousie mutuelle des humains, à l'envie mutuelle, nous nous envions les uns les autres, nous sommes jaloux du bien que nous avons, nous ne voulons pas que les autres en jouissent, sans compter la cruauté, la méchanceté, les calomnies, voilà. Dès qu'on a un peu vécu parmi les humains, on a aperçu les abîmes de cette cruauté dont les hommes sont capables. Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. Qu'ajoute Pascal ? On s'est servi comme on a pu de la concupiscence pour la faire servir au bien public. Voilà une chose étrange, c'est que cette concupiscence, cette haine, cette jalousie, cette envie, tout cela peut être mis au service du bien public. De quelle manière ? Eh bien, simplement, déjà par calcul bien fait, par calcul de perte et profit, par calcul de maximum de plaisir, minimum de peine, maximum, enfin, minimum d'investissement, maximum de retour sur investissement. Il y a différentes manières de le dire. Mais cela veut dire donc que l'être humain est capable de calculer, est capable, alors même qu'il est autrui, de calculer comment il peut tirer le maximum de profit d'autrui, tout simplement. Et par là, donc apparemment, on peut y voir précisément ce qui s'appelle de la charité. Cette charité, cet amour d'autrui gratuit pour le bien d'autrui et pour le salut d'autrui. Mais Pascal est profond, il montre bien que c'est une feinte, c'est une illusion et c'est une fausse image de la charité. Il y a un abîme qui sépare un véritable acte de charité, c'est-à-dire d'un amour désintéressé d'autrui, d'une part, d'avec d'autre part, justement, cette feinte, c'est-à-dire des hommes qui s'entre-haïssent, mais qui sont capables, par calcul d'intérêt, par exemple, d'une certaine générosité, en espérant en retour recevoir de la générosité d'autrui. Et nous voyons bien comment toutes les relations sociales peuvent de loin ressembler à de la charité, de l'entraide, de la générosité, de la bienveillance, et pourquoi pas même du sacrifice pour autrui. Mais au fond, cela n'est que haine. Donc c'est assez effrayant sans doute, mais ça veut dire donc que la vérité des rapports humains aujourd'hui, c'est la haine réciproque des mortels, et sous l'apparence justement de la charité. Pascal enchaîne avec un autre fragment qui dit ceci, je cite, « On a fondé et on a tiré de la concupiscence des règles admirables de police, de morale et de justice. Mais dans le fond, ce vilain fond de l'homme, cette racine du mal, n'est que couvert, il n'est pas ôté. » Alors, comment est-ce qu'on a pu tirer de la concupiscence des règles admirables de bonne mœurs, de justice ? Eh bien, par exemple, par la règle « ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse », etc. Par cette règle du calcul bien fait, du calcul qui a l'air intelligent et pertinent, des pertes et profits, etc. Et à ce moment-là, donc, par calcul que nous croyons pertinent, nous parvenons à vivre ensemble. Mais justement, ces règles sont en un sens admirables, des règles de morale, des règles de justice, mais cela n'a pas enlevé cette racine du mal dans l'homme. Cette racine est seulement couverte, cachée. Et si nous sommes subtils, comme le Pascal nous demande de l'être, nous voyons que sous ces apparences de règles de morale et de justice, nous rendant autrui, etc., c'est ça la justice, hein, vous rappelez, c'est rendre à chacun ce qui lui revient de droit, eh bien, sous ces règles apparentes, ou sous ces actes apparents de justice et de morale, en vérité, si nous savons voir, nous découvrons la haine réciproque, inexpiable, la méchanceté qui va jusqu'à la cruauté, qui fait que nous savons faire payer à autrui mille choses, y compris ce que nous ne lui devons pas et ce qu'il n'a pas mérité. Nous voyons donc là en quoi le moi est haïssable. Il est haïssable de se faire centre de toute chose, et il est haïssable parce que par là, il devient le tyran de tous les autres. Cette formule est tout à fait capitale. Il voudrait être le tyran de tous les autres, dit Pascal. Et dans les faits, chacun s'avance en aspirant à devenir le tyran de tous les autres. Les rapports humains, parfois même jusque dans les couples, les rapports entre des amis, l'apparence de l'amitié évidemment, les rapports sociaux, les rapports politiques, y a-t-il des amis dans un parti politique, etc. Y a-t-il des amis en politique ? Et jusque dans l'entreprise, nous voyons partout des hommes tels que chacun tend à être le tyran de tous les autres, tend par là à résister à la tyrannie d'autrui, et donc nous sommes bel et bien tous ennemis les uns des autres, parce que chacun veut étendre sa tyrannie ou sa domination sur les autres, en abusant deux à tous les sens du terme. En même temps, chacun est face à l'effort de la tyrannie d'autrui et cherche à résister à la tyrannie d'autrui. Voilà, donc ce qui a l'air de loin de ressembler à la charité est bel et bien une fausse image de la charité. Vous voyez que ces pages de Pascal, bien sûr, cette misère de l'homme, nous la voyons ici, cela est abyssal, cela est effrayant, mais il faut y insister, ce n'est pas du tout le dernier mot de Pascal, c'est au contraire le premier mot. Pascal ne veut pas nous faire demeurer dans l'illusion. Pascal ne se complaît pas à nous faire voir notre misère, comment nous nous haïssons les uns les autres, etc., pour le plaisir de nous montrer justement l'abîme, la cruauté dans laquelle nous nous tenons. Si Pascal fait cela, c'est dans un souci de vérité. Mais on pourrait comparer ici avec le médecin. Le bon médecin ne fait pas croire à un malade en état désespéré que la maladie est insignifiante, que la guérison sera prompte et facile. Pareillement ici, donc, si nous voulons voir la guérison, et c'est bien cela à quoi veut nous conduire Pascal, la guérison, ce sera la guérison par le Christ, la guérison par l'amour de Dieu, par la charité précisément, eh bien, nous ne parviendrons à la charité qu'à la condition d'avoir d'abord fait toute la lumière sur notre situation, qui est rigoureusement, on ne peut plus loin de la charité. Et c'est même pire, parce que nous ne sommes pas seulement loin de la charité, nous sommes dans une contrefaçon de la charité. Et c'est le plus grave, la contrefaçon de la charité. Parce que cela veut dire que nous faisons semblant d'être amis, nous faisons semblant d'avoir des actes de charité, là où, précisément, au fond, tout n'est que haine. Voilà, donc Pascal, ici, est décapant, comme on pourra dire aussi, en nous faisant voir sans illusion, sans phare, sans décoration, la vérité de nos rapports. Nous pouvons aussi enchaîner avec un autre Pascal, avec un autre fragment de Pascal intéressant sur la même question. Celui-ci, chacun est un tout à lui-même, car lui mort, le tout est mort pour soi. Et de là vient que chacun croit être tout à tous. Or, il ne faut pas juger de la nature selon nous, mais selon elle. Voilà. Chacun se fait centre de toute chose, centre du monde. Par là, chacun aspire à devenir le tyran de tous les autres. Et nous en voyons maintenant la racine, c'est que chacun est un tout pour soi-même. Il y a quelque chose d'excellent au départ, c'est que chacun soit. Il est bon que chacun soit et que chacun soit soi-même et soit capable de dire « je ». Mais s'il est bon que chacun soit, il y a ici une illusion qui est le danger de croire que je suis le tout ou le centre du tout. Et à partir de là, je peux passer du croire ou en un sens être à moi-même un tout, à croire que je suis le centre du tout, précisément. Alors, il y a ici donc une illusion inévitable, qui est l'illusion liée à notre finité, à notre position comme entité singulière. En vérité, chacun est bien, d'une certaine façon, un tout à soi-même, mais ce qu'il faut, c'est se détacher de soi pour voir qu'on est un tout pour soi-même, dans un tout plus grand, dont on est simplement un membre. L'autre point important, c'est que Pascal met l'accent sur le problème de la mort. Pascal a réfléchi longuement à la mort, à la question de la mort, une question décisive chez lui. Et nous voyons bien ici que, effectivement, chacun, en voyant sa mort, voit bien de quelle manière, justement, s'il est mort, le tout est mort pour lui-même. De là naît une autre illusion que je viens de lire, c'est que chacun croit être tout à tous. Or, justement, il n'y a que Dieu qui soit tout à tous et tout en tous, comme le dit saint Paul. L'illusion donc ici, c'est que l'individu singulier juge tout à partir de soi, il est un tout pour lui-même et il croit être tout pour les autres, sans voir qu'il est simplement une personne singulière pour les autres. Et nous voyons donc ici comment cette tentative de se faire centre et tyran de tous les autres nous cache le principal, qui est l'amour de Dieu.